Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'un des milieux les plus novateurs pour l'amateur de géopolitique. J'ai nommé l'espace, un univers auquel la guerre froide a donné beaucoup d'importance et qui se retrouve plus que jamais d'actualité. Regard sur les enjeux avec nos invités par téléphone. Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages et à paraître début 2019 un ouvrage sur la Lune aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
En studio avec moi, Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la politique spatiale américaine et auteur de Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Les États-Unis ont annoncé en août dernier la naissance prochaine d'une force spatiale, sixième branche des forces armées, censée redonner l'avantage aux guerriers américains par-delà l'atmosphère où Russes et Chinois fourbissent de nouvelles armes fatales. Quelle est la situation, Xavier Pascaud? Quel est le niveau actuel de la militarisation de l'espace et pourquoi cette Space Force est-elle nécessaire aux yeux des Américains?
Bon, effectivement, il y a deux choses. Effectivement, l'aspect militarisation de l'espace, mais qui n'est pas nouveau. Hein. On utilise l'espace à des fins militaires depuis les débuts. C'est même l'une des raisons d'être d'un certain nombre de programmes depuis les tout débuts. Et puis, il y a cette annonce très politique, en réalité, de la Space Force, qui consiste, pour l'administration actuelle, à en fait utiliser un thème, la perception d'une menace croissante, disons, qui est bien installée aux États-Unis maintenant, notamment dans l'administration, je dirais, du Pentagone, mais surtout dans l'opinion publique. On entretient l'idée depuis la fin de la confrontation, d'une certaine manière, de guerre froide avec l'Union soviétique, que des nouveaux défis apparaissent, et en particulier les Chinois sont souvent mentionnés. Et puis aujourd'hui, on rementionne un peu les Russes, qui eux-mêmes, de toute façon, ont une activité un peu fluctuante, ont une activité qui s'est un peu affaissée, en général, hein, aussi bien dans le domaine civil que militaire, mais qui aujourd'hui connaît un certain nombre de reprises pour certains programmes. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on reconstruit quelque part une image de confrontation qui permet aussi au système américain, il faut rappeler que le budget américain, tout compris, civil et militaire, est le premier budget du monde, très très loin, et mais je dirais que ça fait partie d'une certaine manière de la manière qu'a ce système de fonctionner. Et puis il faut reconnaître aussi que quand on parle d'espace, on parle de deux planètes différentes. La planète américaine, c'est pratiquement 60% des investissements mondiaux. C'est beaucoup de satellites en orbite. C'est une dépendance, c'est vrai, croissante, en particulier pour leurs opérations militaires. Donc on s'est convaincu depuis 20 ans à peu près aux États-Unis que les satellites devenaient des cibles. Et donc on souhaite les protéger et tout un discours accompagne ça. Ça colle très bien avec la manière dont l'administration Trump présente les menaces, que ce soit des menaces intérieures ou extérieures d'ailleurs.
Alors il faut dire, Isabelle Sourbès-Verger, que finalement les Américains ont pris un certain retard, ce qui a de quoi surprendre. Alors on se souvient bien sûr des échecs des navettes spatiales Challenger, donc la NASA a pris un coup sur la tête. Et puis il y a aussi les Chinois qui en 2007 ont lancé un missile tueur de satellites, réussissant là où les Américains et leur président Ronald Reagan en 1983 étaient parvenus à faire croire à l'URSS c'est un programme de Star Wars. Bref, ces dernières années, tout de même, un certain retard américain.
Oh non, il n'y a pas du tout de retard américain. Il y a au contraire une énorme avance. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Xavier Pascaud, disons qu'on était sur une autre planète dans le domaine du spatial. Ce que les Chinois ont réalisé en 2007, c'est un petit peu l'équivalent de ce que les Américains et les Russes faisaient dans les années 60. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement basique, c'est-à-dire qu'ils ont, avec un missile depuis leur propre territoire, tiré sur leur propre satellite dont ils connaissaient toutes les coordonnées et ils ont, alors on ne sait pas s'ils ont exactement intercepté ou s'ils ont explosé à proximité et que ça a fait exploser le satellite, mais donc du coup on est dans quelque chose de très 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 rudimentaire. Et ce qui est tout à fait stupéfiant, ça a été la réponse du président Bush qui immédiatement a voulu répliquer par un tir lui aussi. Alors sous prétexte en fait que le satellite qui rentrait dans l'atmosphère pouvait contaminer, vous imaginez un terrain de la taille d'un terrain de football s'il était retombé sur Terre, alors que tous les satellites qui retombent d'une part brûlent dans l'atmosphère et d'autre part tombent dans le Pacifique. Donc en fait c'était un truc qui était quand même totalement stupéfiant sur le plan de la présentation, mais en réalité, et en plus il a fait ça avec justement lui un missile depuis la mer sous-marin, donc on était dans un ordre de grandeur qui était déjà beaucoup beaucoup plus complexe. Et en réalité, ce qui est très étonnant, c'est que personne n'a autant de capacité pour mener une guerre dans l'espace que précisément les États-Unis. Et les États-Unis sont pris un petit peu au piège, puisque que eux dépendent complètement et de plus en plus de leurs moyens spatiaux pour leur sécurité nationale, et donc ils ont à cœur de les protéger et en même temps d'empêcher tout adversaire potentiel de pouvoir un jour atteindre ces satellites. Et donc la difficulté pour la Russie et la Chine, qui n'ont aucune envie, mais alors vraiment aucune, de dépenser un argent fou pour à leur tour développer des armes spatiales, ce serait plutôt d'arrêter la course aux armements. Et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de propositions. Alors les Américains disent que ces propositions sont fallacieuses, qu'en réalité les moyens dont disposent les Russes et les Chinois sont déjà une menace réelle, et je vais dire qu'ils crédibilisent énormément là-dessus et qu'il y a tout un discours. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il est autogénéré et jusqu'à quel point c'est un petit peu de désinformation, mais en tout cas, ils prennent très au sérieux tout risque éventuel, au point de dire que la stratégie américaine pourrait être aussi de dénier l'accès à l'espace, éventuellement à tout adversaire potentiel qui serait jugé menaçant.
Alors, dénier l'accès à l'espace, Xavier Pascaut, je rebondis sur ce que vient de dire Isabelle Sorbière-Verger. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce réalisable?
Alors, ça veut dire, effectivement, ça fait partie de la stratégie, mais qui est annoncée depuis déjà pas mal d'années, en fait. On a vu ça apparaître, c'est ce qu'on appelle le contrôle spatial. C'est une notion, donc en anglais, le space control, c'est une notion qui est apparue en 94 à peu près, donc lors de l'administration Clinton. Et c'est quelque chose qui a permis aux Américains de bâtir une doctrine, en réalité, de défense spatiale, qui comporte différents volets. Alors, un volet consiste à augmenter les moyens de connaître la situation spatiale, de savoir ce qui se passe dans l'espace, et non seulement quels sont les objets qui y sont, mais comment ils manœuvrent, etc. Il y a un volet, ce qu'ils appellent défensif, où effectivement là, ils souhaitent protéger leurs satellites, donc on va les durcir par exemple contre des attaques électroniques, des choses comme ça, ou des attaques cyber, aujourd'hui très à la mode. Et puis il y a un volet offensif qu'ils n'ont jamais caché, et que l'Air Force, d'ailleurs l'armée de l'air américaine, a théorisé, je dirais, en 2004 dans une doctrine bien connue. Et cet aspect offensif comporte effectivement ce volet possible de dénégation ou de négation de l'accès à l'espace. Alors ça peut être un volet politique, par exemple, qui va faire pression sur un pays pour qu'il ne puisse pas avoir accès à des technologies de lanceurs, par exemple. Ça commence ici. Et puis ça peut aller jusqu'éventuellement une frappe préemptive contre un objet, si cet objet est jugé menaçant lorsque cet objet pourrait être utilisé contre les États-Unis. Alors on laisse un petit peu évidemment tout ça dans le flou, ça crée tout un tas de problèmes diplomatiques, de discussions auxquelles Isabelle vient de faire référence, notamment les difficultés aujourd'hui à négocier au plan international, à Genève ou ailleurs, une espèce de code de conduite ou de code de transparence, ou une évolution des traités. Pour l'instant, tout cela est figé, effectivement, parce qu'il y a une reconsidération, en fait, de l'importance militaire de l'espace, effectivement, essentiellement liée à l'activité américaine, et puis sur laquelle viennent se greffer, de fait, effectivement, quelques expérimentations que vont faire les Chinois et les Russes. Et là encore, Isabelle, quand elle souligne que ces expérimentations ont été faites il y a déjà pas mal de décennies, tout événement qui, il y a 30 ans, était jugé finalement comme un événement assez normal dans la confrontation stratégique, est aujourd'hui très placé sous les projecteurs comme étant un événement très anormal et qui est potentiellement porteur de guerre.
Vous écoutez RFI.
Alors, on va parler de l'Europe, on va parler de la France, mais je voudrais juste rester sur ce que vient de dire à l'instant Xavier Pascaut, Isabelle Sorbès-Verger. Ces questions de gouvernance, de code de conduite, d'évolution des traités, on a le sentiment que, pour l'instant, ce sont les Américains qui font la pluie et le beau temps.
Ce sont surtout les Américains qui bloquent, parce que la position américaine est très compliquée, finalement. D'un côté, ils seraient tout à fait partants pour, je dirais, être les seuls, en quelque sorte, à continuer à maîtriser l'ensemble des technologies dont ils disposent, et donc arrêter cette course aux armements qui est en train de se dessiner. Donc, de ce point de vue-là, s'il y avait un traité qui interdise, je dirais, aux nouveaux venus d'acquérir des armes spatiales, ça les arrangerait beaucoup, une forme de traité de TNP. Donc, en fait, où ceux qui ont des armes nucléaires les gardent et les autres n'y ont pas droit. Bon, mais ça, c'est pas quelque chose qui est envisagé, bien évidemment, par le reste des acteurs du monde spatial. Et donc, finalement, aujourd'hui, les États-Unis se contentent de soutenir, on va dire, au moins en partie, quelque chose de non contraignant comme le code de bonne conduite, où tout le monde, finalement, s'engage à faire attention, à limiter ses expérimentations, et ne serait-ce que parce que, si vous voulez, le grand problème est le tir de 2007 avec bien montré, c'est que si vous faites une explosion de satellites, alors en plus à des orbites un petit peu trop élevées, eh bien vous vous retrouvez avec une masse faramineuse de débris qui devient un risque pour la totalité des activités spatiales, que ce soit des satellites civils ou des satellites militaires, et quelle que soit la nationalité des pays en question. Donc, si vous voulez, tout le monde est bien conscient qu'il faudrait quand même trouver une solution. Le rêve des Chinois et des Russes, ce serait de bloquer l'avance américaine en interdisant les armes dans l'espace. Ça, c'est juste exclu pour les Américains. Donc, on est dans une impasse.
Xavier Pascaud, vous partagez?
Oui, tout à fait. En fait, je crois que ce que met bien en évidence Isabelle, c'est le fait que l'espace est un milieu où tout le monde est interdépendant. Donc effectivement, ça a même amené à la limite et les États-Unis et la Russie et la Chine, d'une certaine manière, à considérer à la fois leur sécurité nationale et la sécurité collective, chacun à leur manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques années, avec le nombre de débris qui augmente, avec le nombre d'acteurs qui se diversifient, les types d'acteurs, le nombre d'acteurs qui augmentent, eh bien, la prise de conscience que la sécurité nationale dans l'espace passe quand même, d'une manière ou d'une autre, par une certaine dose de sécurité collective, de transparence, etc. On a tout intérêt à créer, finalement, on va dire, une manière de s'entendre et de se comprendre dans l'espace. Parce que, comme vient de dire Isabelle, tout acte hostile, toute destruction de satellites, de toute façon, va rétroagir sur vos propres satellites. Et plus vous en avez, et c'est le cas des Américains, et bien plus vous pourrez être victime, potentiellement, de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est assez singulier aux États-Unis, c'est quelque chose aussi qui a été conçu il y a une quinzaine d'années. Aux États-Unis, on n'a pas tout à fait l'habitude de faire dépendre sa sécurité nationale du bon vouloir des autres. L'espace, c'est un peu particulier, que les administrations, soient démocrates ou républicaines, elles savent qu'elles doivent interagir avec les autres pays. Et ça crée à la fois des blocages, mais quand même la nécessité du dialogue. On est un petit peu dans ce domaine-là.
Alors, je rebondis aussi sur la notion de course aux armements, avec ce qui était évoqué précédemment, cette volonté américaine peut-être de pouvoir gérer la question chinoise et la question russe dans l'espace, c'est aussi de les contraindre à davantage de dépenses. Il y a tout de même une chose assez nouvelle en matière spatiale, Isabelle Sorbès-Verger, c'est la baisse des coûts.
Oui, alors la baisse des coûts, ça ne concerne finalement, je dirais que un petit peu aujourd'hui, le secteur privé des lancements, ou du moins c'est les annonces qu'on fait sur SpaceX. Il faudra peut-être voir dans la durée exactement jusqu'où il y a cette baisse des coûts. Et puis ça concerne les petits satellites et les petits lanceurs. Mais les petits satellites et les petits lanceurs, je dirais que c'est une part supplémentaire de l'activité spatiale. La part des satellites de reconnaissance, d'écoute, d'alerte, tout ce qui fait la panoplie des satellites militaires américains, elles, c'est toujours les mêmes satellites, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus coûteux. Et donc, on voit bien d'ailleurs dans les budgets américains qui soit augmentent peu, soit au minimum sont constants, que finalement, cet espace low cost est surtout un espace civil, même si les militaires comptent aussi utiliser les petits satellites, mais plus en forme de redondance que pour remplacer les plateformes existantes, au moins aux États-Unis. Ça se pose différemment pour l'Europe, sans doute. Mais pour les États-Unis, la Russie ou la Chine, c'est quand même encore beaucoup l'espace traditionnel qui va l'emporter en termes de sécurité.
Oui, c'est tout à fait vrai. En particulier, les satellites militaires opèrent des fonctions très particulières qui nécessitent des hautes technologies. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on voit une pression de plus en plus forte de l'administration sur son industrie, aux États-Unis notamment, pour dire, bah, quand même, expliquez-moi cet écart de coût. Est-ce qu'on ne peut pas faire cette chose, non pas avec un satellite de 6 tonnes, mais avec un satellite de 500 kilos? On n'en est pas là encore, mais il y a cette pression qui est là. Mais bien sûr, pour l'instant, on est dans une inertie industrielle et technologique.
Alors, on va parler de la France, Isabelle Sorbès-Verger. La ministre des Armées, Florence Parly, dévoilait il y a quelques jours les axes de la future stratégie spatiale de défense qu'elle présentera en fin d'année au président de la République, Emmanuel Macron. Pour illustrer la menace, la ministre a expliqué que Moscou avait tenté d'espionner le satellite militaire français Athena Fidus il y a un an. Priorité aujourd'hui pour la France, et pas seulement pour la France, mais d'observer l'espace depuis l'espace et non plus depuis le sol.
D'observer depuis l'espace, mais d'observer aussi depuis le sol. Et là, je pense que le discours est intéressant parce que ce satellite Luch, dont on parle beaucoup, il a quand même été lancé en 2014. On le connaît depuis très 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 longtemps. On sait qu'il se promène sur l'orbite géostationnaire, qu'il se laisse lentement dériver. Je crois même que c'est le Pakistan à un moment qui a protesté parce qu'il y avait des émissions qui gênaient ses propres émissions radio. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout un satellite secret qu'on aurait découvert. Hein. C'est pas ça. Ce qui est important aujourd'hui, et c'est bien que cela soit dit au niveau politique, c'est la nécessité absolue de faire de la surveillance de l'espace, donc à la fois au sol et depuis l'espace, parce que finalement, si vous voulez évaluer l'ensemble de la situation, eh bien, on en revient à ce premier volet qu'évoquait Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu spatial? Et c'est d'autant plus important pour l'Europe et la France, je dirais, qui est quand même en pointe sur ces sujets-là, c'est que son autonomie de décision en cas éventuel de conflit tient à sa capacité d'information sur ce qui s'est réellement passé. Prenons un cas, imaginons que les Américains décident préemptivement d'annuler un satellite chinois parce qu'on estime qu'il était devenu menaçant de satellite américain, eh bien c'est quand même très important que le reste du monde puisse savoir si oui ou non ce satellite chinois était menaçant. Et là, c'est une question très délicate, et puis c'est aussi une question qui recoupe celle des débris dont on parlait tout à l'heure. Donc cette nécessité d'une surveillance de l'espace, quels qu'en soient les moyens, oui, c'est une priorité. C'est pas extrêmement coûteux. La France est un petit peu en avance avec un radar grave qu'elle a développé avant tout le monde, mais qui ne lui donne qu'une connaissance partielle. Et c'est certainement un effort qu'il faut poursuivre.
Xavier Pascoe, Isabelle Sorbès-Verger évoquait la nécessité de, pour la France, d'avoir une autonomie de décision. Les informations, alors je parle évidemment sous votre contrôle à l'un et à l'autre, se font plutôt, on dépend beaucoup des Américains.
Aujourd'hui, oui, pour savoir ce qui se passe dans l'espace, le réseau le plus étendu, le plus performant, on va dire, c'est le réseau américain, même si la Russie d'abord et la Chine commencent à s'équiper de réseaux important. Et la France est un petit acteur, mais un acteur quand même dans ce domaine. Et le simple fait de s'être équipé du radar dont Isabelle a parlé, eh bien, a changé un petit peu le statut de la France dans ses rapports avec les puissances spatiales, que ce soit les États-Unis ou les autres. On ne sait pas tout, c'est vrai, c'est partiel. Il se trouve que les satellites sont en train de diminuer de taille, donc les exigences techniques sont encore plus grandes. Donc il va sans doute falloir investir. Effectivement, le discours de la ministre des Armées a vraiment été dans ce sens. Et on a quand même un enjeu politique derrière ça, c'est-à-dire que la connaissance de la situation, c'est un peu similaire à ce qui s'est passé lorsque la France s'est équipée du satellite Hélios. En ayant le satellite Hélios, elle pouvait voir des choses et éventuellement avoir un regard critique sur le débat international, sur les armes de destruction massive, sur ce qui pouvait se passer au Proche-Orient, etc. En 96, par exemple, il y a eu une désolidarisation de la France en expliquant que la France ne voyait pas les mêmes choses que ce que voyaient les États-Unis. Très vite, ça crée un dialogue de qualité différente. On en est exactement au même point dans le domaine spatial avec cette capacité à voir ce qui se passe depuis le sol et éventuellement à voir ce qui se passe depuis l'espace.
Isabelle Sorbès-Verger, la France a créé le commandement interarmé de l'espace en 2010. Cette création a marqué une étape importante pour l'inscription du domaine spatial dans le champ de la défense. La difficulté tout de même pour la France, elle est d'articuler ses capacités nationales avec celles des partenaires européens tout en préservant ses éléments de souveraineté. C'est une équation difficile.
C'est une équation difficile, mais c'est une équation qu'on retrouve effectivement dans d'autres domaines. Et là, moi, je vais aussi revenir sur le domaine de l'observation de la Terre, où il y a eu une mise en place qui est maintenant assez ancienne entre les états-majors militaires des différents pays européens dotés, entre autres, de moyens d'observation à haute résolution militaire pour être capables d'échanger leurs informations. Et donc, ça s'appelle le besoin opérationnel commun. Et il y a une cellule, si vous voulez, dans laquelle il y a ces échanges-là. Donc, on peut imaginer que dans le domaine de la surveillance spatiale, on pourrait aussi mettre en place des procédures de ce type-là ou d'un autre type. La vraie question, en réalité, c'est comment se construit la défense européenne et comment s'articulent les souverainetés nationales avec une forme d'autonomie européenne en matière de défense.
Xavier Pascoe.
Oui, effectivement, c'est l'effort aujourd'hui qu'on voit poindre au niveau européen avec un activisme de la Commission européenne qui souhaite vraiment devenir un acteur dans le spatial en général et dans le spatial de sécurité, voire de défense en particulier. La surveillance de l'espace, c'est aujourd'hui l'objet d'un consortium d'États qui s'est groupé autour de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Mais on a des difficultés quand même à partager les équipements. Les acteurs sont différents. Vous avez des acteurs civils qui parfois opèrent ces radars, parfois des acteurs militaires avec donc de la protection du secret. Donc tout ça est quand même très compliqué. Et puis il y a le rôle de la Commission qui reste évidemment un grand point d'interrogation dans l'absence d'une véritable politique de défense.
Et le rôle de l'Agence spatiale européenne.
Alors qui n'est pas une institution de l'Union européenne, mais qui vient effectivement s'ajouter à...
On rebondira là-dessus dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Isabelle Sorbès-Verger et Xavier Pascoe dans...
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'espace et ses enjeux. Nous retrouvons nos invités, Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur la Lune à paraître début 2019 aux éditions du CNRS, et Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la politique spatiale américaine, auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space, aux éditions du CNRS. Nous avons quitté la première partie de l'émission en évoquant peut-être cette équation difficile. On parlait de l'Europe, de la France qui donc veut articuler ses capacités nationales avec celles des partenaires européens, c'est important, tout en préservant ces éléments de souveraineté. Une équation peut-être difficile, parce que c'est vrai qu'aussi au niveau de la défense européenne, les choses ne sont pas actées. Le rôle de l'Agence spatiale européenne, comment entre-t-elle dans ce schéma de stratégie européenne, Isabelle Sourbès-Verger?
L'Agence spatiale européenne, elle a effectivement un rôle un petit peu compliqué parce que elle est un organisme civil, hein, donc ça fait partie de ses statuts et c'est un organisme qui, je dirais, a vraiment vocation au départ à faire de la science spatiale et puis ensuite va avoir un certain nombre de programmes optionnels et donc la surveillance de l'espace relèverait de ces programmes optionnels. En même temps, la compétence technique, c'est l'Agence spatiale européenne qui l'a et il y a un centre à Darmstadt qui assure déjà le suivi des satellites européens et qui pourrait potentiellement contribuer lui aussi à une surveillance spatiale globale. Sauf que les différents pays européens, ben, finalement, ils n'ont pas très envie, et en tout cas ils n'ont pas de politique conjointe qui justifie d'un investissement dans des systèmes d'observation qui observeraient aussi leurs propres satellites nationaux, avec peut-être au final moins de capacité de contrôle sur ce qui se passe que dans un organisme dédié qui pourrait être sous le contrôle de l'Union européenne et bien sûr des États aussi. Donc si vous voulez, on peut dire que l'Agence spatiale européenne, elle a bien sûr un programme de surveillance spatiale, il est plus dédié à des activités qui qu'on fait ne sont pas celles qui concernent directement le suivi des satellites, mais plutôt la météo spatiale d'un côté, et sinon, globalement, la surveillance des astéroïdes, des jeux croiseurs, des débris, etc.
Xavier Pascaud.
Oui, et de fait, l'agence s'est dotée d'un programme de surveillance spatiale voté par les États membres, alors qui ne sont pas les mêmes États membres que ceux de l'Union européenne, ce qui pose aussi un petit problème. Et on a vu au fil des années ce programme se réduire dans son périmètre, c'est-à-dire que ce programme qui comportait, par exemple, une fonction d'imagerie des satellites, de meilleure connaissance de ces satellites, de catalogage, eh bien ça, ces fonctions ont été finalement écartées pour reconcentrer les efforts sur ce qu'on appelle la météorologie spatiale, par exemple la surveillance du soleil et de ses rayonnements et de ses effets sur les satellites, ou éventuellement, comme le disait Isabelle, l'identification de satellites qui pourraient croiser l'orbite de la Terre. Donc, des choses beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus, je dirais, dans le statut de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, mais qui, évidemment, réduisent l'ambition du programme.
Alors, on a parlé de la très forte domination américaine, on a parlé de l'Europe, de la France, puissance spatiale. Isabelle Sourbès-Verger, quelles sont les autres grandes puissances spatiales? On a évoqué très rapidement la Chine, la Russie, mais il y a bien évidemment sur les starting blocks beaucoup d'autres pays. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quel est le rapport de force?
Oui, alors déjà, je pense que c'est intéressant de comparer un petit peu la Chine et la Russie. C'est une comparaison très difficile parce que on est, je dirais, avec la Russie plutôt sur un effet de traîne et je dirais une capitalisation sur ce qu'a été la grandeur du spatial soviétique, en particulier en domaine de développement militaire, qui reste important. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que on a beaucoup entendu parler de la Chine parce que les Américains, d'une façon générale, sont focalisés sur leurs relations avec la Chine. Mais là, par exemple, si vous reprenez le discours récent, on revient sur ce satellite russe Luch, donc, et pas sur un satellite chinois en l'occurrence. Alors, quand même, je précise que la Russie tend à vouloir renouveler ses capacités, et de la même façon qu'elle remet à jour son arsenal militaire terrestre, elle entend bien aussi faire de même dans l'espace. Pour la Chine, c'est un petit peu différent, puisque là, on est dans un pays qui acquiert tous les jours de nouvelles capacités. En même temps, la Chine a toujours dit que si les États-Unis lui servaient des talons en quelque sorte, pour autant elle considérait que les dépenses dans l'espace des États-Unis étaient absolument extravagantes, c'est le mot qui est souvent employé, et que donc il fallait que la Chine trouve d'autres moyens, et là on tombe sur des questions d'asymétrie par exemple, d'être capable d'assurer son propre développement et sa propre sécurité nationale sans gaspiller des sommes pareilles que la Chine n'a pas, parce que bien évidemment on est quand même dans le cas de la Chine, dans un pays qui a plusieurs projets de front, et le spatial en est un important, mais un parmi d'autres. Et pour les autres grandes puissances spatiales, là on est sur des cas intéressants qui sont par exemple le Japon, qui est une grande puissance spatiale technologique dont on parle peu pour des raisons essentiellement politiques, hein, et qui en plus conçoit un spatial comme essentiellement civil, et l'Inde, qui elle aussi a toujours posé les bases de son spatial comme un spatial d'application aidant au développement du pays, et un spatial civil. Et dans ces deux pays, on se rend compte que cette position évolue sous l'effet de contraintes qui est représentée par ce discours américain et ses angoisses américaines en matière de militarisation de l'espace. Et donc, depuis quelques années, 2008, en fait, le Japon envisage d'avoir des programmes dits duaux de reconnaissance, mais aussi peut-être à terme un petit peu plus de surveillance. Et l'Inde commence à envisager, elle aussi, des usages militaires au moins dérivés des systèmes civils dans un avenir proche. Donc, on a là un phénomène d'entraînement qui n'est pas du tout rassurant pour la sécurité internationale et qui, d'une certaine façon, témoigne aussi d'une banalisation des activités spatiales qui, bien qu'étant un milieu physique très, très, très différent du milieu terrestre, et ça, je pense que ça mérite d'être souligné, parce que je pense qu'il y a aussi quelquefois des erreurs dans la manière dont on s'imagine que les satellites circulent, hein. Il n'y a pas de route dans l'espace, il n'y a pas de port, il n'y a pas de flux, enfin bon, c'est totalement différent, mais en dépit de tout ça, c'est vrai que maintenant, on imagine que le milieu spatial, eh bien, comme les autres, va devenir un milieu de compétition, y compris militaire.
Alors, je voudrais là aussi rebondir sur ce que vient de dire Isabelle Sorbès-Verger, Xavier Pascaud, phénomène d'entraînement peu rassurant et banalisation du milieu spatial. C'est vrai que pendant la guerre froide, il s'est agi d'une grande rivalité entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, l'espace fait partie intégrante de la vie sur Terre.
Oui, on est sorti d'une situation où l'espace a été sanctuarisé, je dirais presque gelé, si j'ose dire, par les rapports de guerre froide et par le dialogue stratégique et la nécessité pour chacune des grandes puissances de pouvoir s'observer, de pouvoir exercer leur dissuasion. Et l'espace a été un élément central de cette dissuasion. Alors même si, en fait, il ne faut pas perdre de vue que les arsenaux nucléaires existent toujours, qu'il existe toujours dans l'espace des moyens de part et d'autre de s'observer, d'observer des tirs de lance. L'espace devient aussi, et ça c'est tout à fait nouveau au début des années 90, quelque chose dont on se sert, et en partie aux États-Unis, pour faire la guerre conventionnelle, pour aller en Irak. On se rend compte, quand on va en Irak, par exemple, que les satellites qu'on avait développés pour observer l'Union soviétique ne sont pas du tout adaptés. Donc on va adapter les... Et puis on va avoir le fameux GPS qui va guider des armements, etc. In fine, on va se convaincre aux États-Unis, et je dirais que les discours en face vont se servir aussi de ça pour appuyer un peu cette vision. On va se convaincre que les satellites vont devenir des cibles. Et donc, en ayant cette perception qui change, ben l'espace, j'allais dire, devient un milieu. Alors même si je confirme tout à fait ce que dit Isabelle, c'est un milieu très particulier au plan physique, mais au plan de la perception symbolique, ben ça devient un milieu comme la Terre, la mer, l'air, et bien maintenant l'espace. Et si en plus des technologies permettent d'y manœuvrer mieux, on fait des progrès technologiques continus, et on a le sentiment qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années à peu près, eh bien l'espace commence à être perçu comme un milieu dans lequel il va falloir éventuellement mener conflit. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau historiquement, je dirais.
Alors, il y a peut-être un pays dont on n'a pas parlé, hein, dans les puissances spatiales, États-Unis, Europe, France, Japon, Inde, bien sûr, Russie, Chine, la Corée du Nord.
Oui, tout à fait. Et la Corée du Nord, c'est un excellent exemple d'un des volets de la politique américaine du contrôle spatial qu'évoquait Xavier Pascaud tout à l'heure, c'est-à-dire empêcher un pays qui est considéré comme un ennemi potentiel d'acquérir une compétence dans le domaine des lanceurs. Et finalement, la Corée du Nord, qui a lancé deux satellites par ses propres moyens, est réputée en tant qu'État, en tant que Rogue Nation en anglais, en tant qu'État voyou, finalement, a vu ses lancements qui sont condamnés par la communauté internationale parce qu'ils seraient en violation de ses accords sur les missiles, alors que normalement, en droit de l'espace, tout le monde a accès à l'espace et tout le monde a le droit de l'utiliser. Donc là, on a un excellent exemple à la fois de la confusion entre les programmes de missiles intercontinentaux et les programmes de lanceurs, qui est un problème technique évident, mais aussi de cette manière dont les États-Unis conçoivent le contrôle de l'espace en général.
Xavier Pascaud.
En fait, il y a une superposition de différentes réglementations et textes internationaux, et ça montre bien la difficulté, d'ailleurs, aux Nations Unies d'avoir une position finalement unifiée. Mmh. Vous avez dans cette affaire, effectivement, le droit international spatial qui autorise tout à fait à procéder à ce type de lancement. Vous aviez des résolutions des Nations Unies en parallèle qui interdisaient à la Corée du Nord un certain nombre de choses. Et après, toutes ces questions d'interprétation. Et quand on regarde ce qui s'est passé pour les codes de conduite internationaux, pour l'amélioration des traités, etc., les discussions ont été très compliquées, en particulier pour les États-Unis, y compris pour l'Europe d'ailleurs, quand il s'est agi de proposer un code de conduite international, on s'est aperçu que un grand nombre de pays non spatiaux, mais qui écoutent ces débats, sont finalement peu enclins à bouger sur ces questions, et même de code de conduite, même de transparence, parce qu'il y a toujours un soupçon derrière, qui est ce soupçon général, eh bien, d'un certain club de pays dotés de moyens spatiaux qui voudraient empêcher un certain nombre d'autres pays d'accéder à ces moyens. Alors, on fait souvent la confusion dans tous ces débats entre régime de contrôle et régime de transparence, par exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai que les seules discussions qui continuent d'exister sont des discussions sur au moins des échanges d'informations pour éviter que les situations dégénèrent.
Alors, la question des lancements, l'accroissement de ces lancements est spectaculaire. Plus de 300 satellites d'une masse de moins de 250 kilos ont été lancés en 2017. Le point de saturation, on en est très loin. On a l'impression que, voilà, il y a un encombrement.
On en est très loin.
Xavier Pascaud.
On en est très loin. Alors, il y a sur certaines orbites, effectivement, classiquement utilisées pour faire de l'observation de la Terre, par exemple, etc. Mais il y a des orbites qui sont plus peuplées que d'autres, on va dire. Maintenant, l'espace, c'est quand même très grand, et on a simplement le risque d'avoir des effets de débris en cascade si jamais, pour l'une de ces grandes constellations qui ne sont pas encore dans l'espace, il faut bien le dire. Mais on pourrait avoir sur certaines orbites effectivement des problèmes de contrôle et de ce qu'on appelle de contrôle du trafic spatial à l'ordre du jour dans les conférences internationales.
Alors, Xavier Pascaud, l'ouverture des technologies spatiales à d'autres acteurs est une réalité aujourd'hui. On voit des sociétés privées plus proches du monde de l'Internet que de l'aéronautique et de la défense décider à investir dans des technologies spatiales. Ça constitue bien évidemment une rupture. Quelles sont les innovations à attendre et qu'est-ce que cela va bousculer ?
Alors, les innovations à attendre, c'est quand même effectivement essentiellement une réduction de coûts, une réduction de masse, donc un accès réputé plus facile parce que exigeant moins d'énergie, etc. Donc, on va vers une activité spatiale facilitée. Alors après, qu'est-ce que ça implique au plus profondément? Je pense que c'est quand même une redéfinition de ce qu'est l'activité spatiale mondiale aujourd'hui en termes de rapport entre acteurs publics et acteurs privés. Jusqu'à présent, les grands industriels du spatial, ce sont d'abord des maîtres d'œuvre qui répondent à la commande publique. Ils ont eux-mêmes une capacité désormais à générer une vision de l'occupation de l'espace. Ils racontent quelque chose, finalement, que ne racontent peut-être plus parfois les agences spatiales elles-mêmes. Et donc ça modifie progressivement le rapport, je dirais, entre l'activité spatiale et la société dans son ensemble.
Alors, on voit aux États-Unis la NASA faire beaucoup appel à des sociétés extérieures, c'est ce que vous évoquiez à l'instant. Ouais. C'est pas le cas en Europe, et c'est un peu un reproche qui est fait notamment au CNES. Est-ce qu'il y a là aussi des choses nouvelles qui sont à attendre?
Je crois que de toute façon, cet essor des start-up, il est d'abord américain, il est d'abord californien, même aux États-Unis, avant d'être américain, je dirais, d'une certaine manière. Mais on a en Europe aussi un certain nombre de gens qui se rendent compte que l'activité spatiale, elle ne peut plus venir que des gouvernements et que peut-être l'activité économique, notamment autour des technologies de l'information, peut générer du revenu pour ces acteurs spatiaux. Les entreprises se reconfigurent. La meilleure preuve, par exemple, Ariane Group, son lanceur. Finalement, la grande modification avec les 10 dernières années dans la façon dont Ariane Group va gérer les lancements aujourd'hui, c'est que Ariane Group est intéressé aux bénéfices. Ça, c'est tout à fait nouveau. On essaye de rapprocher finalement ces grandes industries d'un marché supposé, même si le gouvernement est un des acteurs de ce marché.
Alors, projection sur l'avenir, si vous voulez bien, on a l'information sur laquelle Elon Musk veut satelliser vers Mars sa voiture star, la Tesla Model S. Ça vous paraît fantasmagorique? La conquête de Mars est-elle toujours prévue? Et après ça, Isabelle Soubasse-Verger, j'aimerais bien que vous nous parliez de la Lune. Vous aviez pas
Mars. Alors, je laisserai la Lune, Isabelle. La conquête de Mars, elle a toujours été d'actualité, je dirais. La conquête de Mars est un peu l'objectif, le Graal, finalement, on a l'impression, du programme spatial civil qui justifie le fait qu'on ait un programme d'exploration. Alors, on ne sait pas trop, finalement. Alors, les raisons qu'on donne, c'est parce que, scientifiquement, Mars serait très proche de la Terre en termes de nature de planète et que ça nous apprendrait beaucoup, et, ça, et c'est évidemment le cas, scientifiquement, sur la Terre. Alors, on a Musk qui nous annonce qu'il veut mettre 1 million de personnes sur Mars d'ici plusieurs décennies. C'est-à-dire, on ne sait pas trop pourquoi on irait. Il y a un problème fondamental du vol habité, quand même, et de l'exploration humaine du système solaire, parce qu'on sait que, ben, finalement, les astres du système solaire ne sont pas si accueillants que ça, finalement. Mmh. Mais ça reste aujourd'hui, pour le politique, je dirais, un horizon qui peut être mobilisé vers l'opinion publique. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ça se passe un peu moins en Europe, même si on s'associe aux États-Unis par le biais de l'Agence spatiale européenne à des grands projets d'infrastructures habitées, etc. Mais on est encore dans une projection très lointaine, et aujourd'hui, personne ne prendra le risque de vous dire à quelle date un premier homme posera le pied sur Mars.
Alors, Isabelle Sauber-Verger, sur Mars et la Lune.
Oui. Alors, en fait, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de vendre le rêve d'aller vers Mars. Vous avez les images vidéo d'Elon Musk lui-même, avec sa Tesla qui part, son cosmonaute, le bras sur la portière, et la musique idoine. Et puis, vous avez d'autres visions un peu plus terre-à-terre, c'est le cas de dire, qui dit, bah tiens, un débris de plus. Si vous voulez, pour l'instant, effectivement, la conquête de Mars, c'est quand même encore beaucoup du domaine du rêve. Et l'autre chose importante, et c'est valable aussi en partie pour la Lune, c'est qu'on voit de plus en plus, quand même, à côté de l'activité humaine, une réflexion sur l'usage des robots. Et par exemple, à bord de la Station Spatiale Internationale, qui était quand même conçue pour permettre à des hommes de vivre dans l'espace, eh bien, vous avez des expérimentations sur des robots. Donc, c'est très intéressant. Et quant à l'exploration martienne, on imagine aussi de laisser les hommes en orbite et puis peut-être de leur permettre d'interagir avec un robot qui, lui, serait au sol, et ce qui réduirait quand même les problèmes de communication, puisqu'en fait, il y a 30 minutes de délai entre la Terre et Mars en termes de communication. Donc ça, c'est un élément important. Et quant à la Lune, ben, la Lune, du coup, des arguments, bon, Fabienne le disait, depuis très longtemps, il y a cette espèce de valse hésitation, on va vers Mars, on revient sur la Lune. L'avantage de revenir sur la Lune, c'est que c'est accessible, c'est beaucoup plus près, c'est moins compliqué, on connaît, et donc l'idée, c'est éventuellement de voir ce qu'on peut tester, comment on peut faire, et à partir de là, quel est vraiment l'intérêt d'un homme sur une planète qui est de loin beaucoup, beaucoup plus hospitalière que ne pourrait l'être Mars.
Xavier Pascaud.
Oui, alors pour le cas américain, on assiste en ce moment, depuis quelques mois, au retour de la Lune, je dirais, à l'avant-scène. C'est aussi une manière pour l'administration actuelle de redonner à l'agence spatiale américaine un objectif, je dirais, accessible. La NASA s'est trouvée dans une période difficile, finalement, depuis plus d'une dizaine d'années, avec une valse hésitation, comme disait Isabelle, entre Mars et la Lune, l'engagement de George W. Bush pour la Lune, et puis finalement, le retrait d'Obama, le retrait du programme par Obama, avec l'idée de préparer Mars, mais sans véritable objectif. Et ça a vraiment plongé l'agence dans des difficultés programmatiques. On a parlé de rediriger des astéroïdes, etc., que personne ne prenait au sérieux, et finalement qui ont miné la crédibilité de la NASA en termes de programmation. En redonnant un objectif lune, je dirais, pour la NASA, on redonne une roadmap, comme disent les Américains, une feuille de route à la NASA. Je pense que c'est un aspect qui n'est pas négligeable.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, vous voyez bien l'Agence spatiale européenne se précipiter aussi sur ce genre de programme en proposant le village lunaire. Finalement, là encore, il s'agit pour une grande agence de remobiliser ses énergies, de remobiliser son potentiel et éventuellement son public avec un grand programme. Mais déjà, vous voyez bien au niveau chinois, un effort pour faire quelque chose de différent. Par exemple, d'aller poser à la fin de l'année un rover sur la face cachée de la Lune, ce qui est un vrai défi technologique, et en même temps, trouver un créneau où les autres n'ont pas été. Et moi, ce qui me frappe, c'est que si on regarde maintenant le programme lunaire, on va avoir beaucoup de pays qui s'y intéressent, Japon s'y intéresse aussi, et l'Inde bien sûr, et plutôt quand même dans une forme de coopération internationale. Et même l'agence spatiale russe, alors là ça va peut-être changer parce que on va dire que le responsable de l'agence a changé et qu'il est beaucoup moins ouvert à l'international que l'était son prédécesseur, mais encore très récemment, jusqu'à il y a 6 mois, vous trouviez sur le site de l'agence russe l'idée qu'ils allaient explorer la Lune en coopération avec les Américains et avec les Européens et avec les Chinois.
Alors la Lune, nous en reparlerons. Merci à nos invités. Isabelle Sauber-Verger, géographe, directeur de recherche au CNRS et auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un à paraître au début de l'année 2019, un ouvrage sur la Lune aux éditions du CNRS. Merci aussi Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la politique spatiale américaine, auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space, aux éditions du CNRS. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Véronique Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée aux guerres